La conférence que vous allez entendre a été donnée par Rénal Sécher, historien de la Vendée, devant les étudiants d'Action française en présence de Son Altesse Royale Sixte Henri de Bourbon-Parme, le vendredi 25 août au château de Nimières, lors du camp Maxime Reyl del Sarre 2006. Rejoignez nos sections locales pour leurs activités de formation et militantes. Vous pouvez pour toute information nous retrouver sur internet actionfrançaise.net et nos réactions quotidiennes sur afe.new.fr. Nous vous souhaitons une bonne écoute de cette conférence et vous rappelons que l'ensemble des conférences seront disponibles sur le site afe.new.fr.
Je vous conseille d'ailleurs tout ce qu'a écrit Rénal Sécher, parce que moi-même j'ai trouvé beaucoup et j'y apprends toujours beaucoup. Et il a fait aussi un certain nombre de BD sur des personnages historiques de l'histoire de France, comme le roi Louis XIV, je crois que c'est la dernière qui vient de paraître, et qui est tout à fait intéressante, et c'est une manière un peu ludique de, je dirais, réviser ses classiques. Voilà, donc maintenant je lui cède la parole avec beaucoup de plaisir, et je pense que vous prendrez beaucoup d'intérêt à tout ce qu'il vous dira, et vous apprendra des choses qui parfois vous feront un petit peu frissonner. Merci.
Vous avez beaucoup de chance, si je peux me permettre, non pas de m'apercevoir, mais de travailler dans une équipe avec des matériaux solides, avec des gens, puisqu'on m'a expliqué qui étaient venus ici, des gens compétents qui vous expliquent les choses. Ils vous expliquent les choses en paradoxalement, hors idéologie. C'est pas parce que vous êtes monarchiste que vous êtes marqué par une idéologie. Et personnellement, lorsque j'ai commencé mes travaux sur la Vendée, j'étais hors idéologie. Je suis, mon nom l'indique, breton, mais je suis aussi vendéen. J'ai cette double culture, double identité. Ça peut faire sourire, mais ça n'a rien à voir, l'identité vendéenne, de l'identité bretonne. Et en fait, je suis descendant moi-même de martyrs vendéens, sans le savoir précisément. Et si vous allez au Luxe-sur-Boulogne, par exemple, vous verrez que les grandes familles du Luxe-sur-Boulogne, les Mercier-des-Rochettes, eh bien c'est ma grand-mère. Je descends par ma grand-mère, les Mercier-des-Rochettes. Et à la chapelle de Basse-Mère, idem, je descends d'un certain nombre de martyrs. Mais chez nous, ce n'était pas quelque chose qui animait notre réflexion, qui alimentait notre culture. C'était un fait, un final. Et pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers des travaux sur la Vendée? Ce n'est pas du tout par conscience, ni par volonté. Et hier, j'ai rencontré Jean Meyer, qui était mon directeur de thèse, qui est un vieux monsieur que je vous conseille de lire, de 84 ans. Et on s'est rappelé comment ça s'était passé. En quelques mots, je vais vous le dire, l'importance de la circonstance qui fait que ça va changer votre vie. Jean Meyer, tu le connais, un homme de très haute qualité et dimension, c'est un Maghrébin, c'est un Alsacien, qui a été recruté par la Wehrmacht, qui s'est enfui sur le front de l'Est et qui a trouvé refuge chez les Soviétiques, qui de nouveau s'est enfui, est allé se réfugier chez les Américains, puis chez les Anglais, et qui a terminé dans l'armée française. Il parle couramment 5 ans. C'est un homme de savoir, c'est un homme de connaissance, c'est un homme de culture. Mais de culture plutôt germanique, qui n'a pas l'inconvénient de notre culture française, qui est une culture idéologique, déductive et non pas inductive. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les travaux universitaires en France, la majeure partie des travaux universitaires en France, surtout à l'heure actuelle, ne sont faits que pour alimenter, illustrer ce que l'on veut au nom de la nation, au nom d'un mythe républicain inculqué à tous les niveaux, dans toutes les structures, et bien entendu dans l'éducation nationale.
Dans les écoles anglo-saxonnes, et on en parlait encore hier, c'est exactement la démarche inverse. Le document, rien que le document, et ensuite, on en tire, à la suite de la critique, de l'analyse, les conclusions qui s'imposent hors idéologie, hors politique, d'où la supériorité de la recherche anglo-saxonne au sens large, qu'elle soit américaine du Nord, canadienne, britannique, allemande, viennoise, etc. Et on le voit bien d'ailleurs, les derniers résultats sur relatifs aux universités, pourquoi l'université française est en train de s'effondrer. C'est parce que nous avons une université de plus en plus idéologique. Et c'est d'autant plus vrai qu'il faut bien savoir que pour devenir professeur dans le cadre des universités françaises, il faut être coopté. Et la droite, il s'enfonce à la tête parce qu'elle ne comprend pas l'enjeu de la culture. Elle n'a pas compris que pour cacher ce processus d'appropriation, de confiscation de la pensée, d'appropriation de la pensée, il fallait absolument remettre en question le mode de recrutement des professeurs à l'université. Tant qu'on ne le fera pas en France, et ça c'est le talent des marxistes dans les années 46, de la cooptation, ça veut dire que la pensée confisquée, la pensée truquée, etc., sera et restera au pouvoir. Parce qu'être professeur à l'université française, ce n'est pas seulement un statut, mais c'est aussi une diffusion de la pensée, mais c'est aussi des laboratoires, c'est aussi des finances, etc., des colloques, etc. Et je vous prends un exemple flagrant. Depuis la création de la chaire qu'on appelle de la Révolution française, dans les années 1880, tous les titulaires, sans aucune exception, y compris la dernière, tous les titulaires ont appartenu au parti de gauche et principalement au PC, et ont été des militants de la pensée marxiste. Ça veut dire que au plus haut niveau de la pensée française, le discours véhiculé par rapport à la Révolution française est le discours marxiste. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi les thèmes dérangeants, comme le thème de la Vendée, a été exclu de la réflexion universitaire depuis la Révolution française, et notamment depuis 1884, et les seuls travaux qui ont eu lieu, qui se sont déroulés, et qui ont eu comme objet la Vendée, il y en a eu trois, un sur Carrière en 1822 de Martin, qui concluait, c'est intéressant la conclusion, que puisque Carrier représentait la loi, son action ne pouvait être que juste. Vous imaginez, 13 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, qui, rappelons-le, a été élu légalement. Les deuxièmes travaux qui ont eu lieu, c'est pas un américain, je n'en parle pas, tellement c'est d'une médiocrité absolue. Puis le troisième édition de travaux, par Jean-Clément Martin, qui sont des travaux absolument truqués, puisque Jean-Clément Martin appartient à un parti politique très précis, à une école très précise, et que tous ces travaux n'ont eu comme objet que de démontrer que la Vendée, c'est une addition de petits massacres liés au sida, comme au luxe, au blox, ce qui est la GSP. Alors pourquoi un homme comme moi a-t-il été amené à travailler sur la Vendée? Le hasard. Il n'y a pas eu de préparation, de complot, tout ça c'est la mystification. Le hasard de la rencontre entre un étudiant et un professeur au sein de l'université de Haute-Bretagne, une université marxiste, s'il y en a une en France, c'est bien celle-ci. Hein? Et le seul professeur qui ne le soit pas, c'est un homme, deux ou trois autres, qui était exigeant avec ses élèves, et je suis allé le voir à la fin d'un cours en disant, ben voilà, je voudrais faire ma thèse avec vous. Et le gars m'a regardé en disant, moi je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je pars à Paris 4 Sorbonne, je ne veux plus d'étudiants à Rennes. Et au moment où on allait se séparer, je n'étais pas content. Il me pose cette question, et pourquoi voulez-vous travailler avec moi? Et moi je réponds simplement, parce que vous êtes exigeant, et j'aime l'exigence. Il a été intrigué, et en fait, en marchant dans ces couloirs très cliniques, au sens médical du terme, de Berger, allez-y, c'est l'horreur de l'université. Eh bien, on a réfléchi ensemble le sujet sur le sujet qui pouvait éventuellement nous intéresser. Et on est arrivé tout naturellement sur la Vendée en disant, mais parce que Jean Meillard était professeur à Nantes après la guerre, au lycée Clémenceau, il a payé acheter une maison à côté de mon village natal. Il dit, mais j'ai entendu dire que tu étais un cheval basque. Donc tu es Vendéen. Mais non, je ne suis pas Vendéen, je suis breton. Et oui, tu es Vendéen par extrapolation parce que tu fais partie de la Vendée militaire. Tu sais qu'il n'y a aucun travail que fait sa Vendée militaire depuis 200 ans. Ça serait intéressant que tu t'y attaches. Et là, je dis, oh, surtout pas, ce sont des histoires de grand-mère, et là, on va rentrer dans les errements tels qu'on peut connaître, en maternelle, etc. Il a dit, c'est faux. Tout est à faire en la Vendée, sur la Vendée. Le seul problème que nous ayons, est-ce qu'il y a de la matière? Et en fait, on a beaucoup réfléchi, c'est une méthodologie que je donne là, sur la question de matière. Puisque les marxistes, et d'ailleurs les royalistes du 19e et du 20e siècle, n'avaient pas du tout évalué la gravité de ce qui s'était passé en Vendée. Et pour les marxistes, c'était la rébellion d'un peuple sous la tutelle du clergé et de la noblesse, en voie de paupérisation, et que pour les conservateurs, les Vendéens, à distinguer d'ailleurs entre les conservateurs légitimistes et orléanistes, et je vous expliquerai pourquoi les Orléans ont toujours été gênés par rapport à la Vendée. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas vu la gravité de la chose? Parce que la monarchie française n'avait pas pris le temps, la précaution, de nommer comme il se devait et de créer une véritable recherche sur la Vendée, sans aucun doute, faute de temps. Je ne remets pas du tout en question les volontés de Louis XVIII, on va en parler tout à l'heure, et de Charles X qui ont été remarquables pour la Vendée. Donc, en clair, les marxistes, la gauche, républicaine entre autres, etc., avait minimisé au maximum la Vendée, lui substituant d'ailleurs le mythe qui est une pure création. Et les monarchistes et la droite conservatrice en France n'ayant pas du tout vu la réalité de la gravité de l'événement de la Vendée, qui est réellement la matrice des génocides que je vais vous démontrer. Alors la méthodologie. Est-ce qu'il fallait étudier globalement la Vendée militaire? J'étais un tout jeune étudiant, moi. J'étais en maîtrise. Ou faire un carottage au sens scientifique de terme sur une paroisse donnée qui allait nous permettre d'évaluer la réalité documentaire sur la Vendée. Le document, rien que le document, hors idéologie. Et en marchant au milieu de ce couloir, il nous est apparu tous les deux que je ne pouvais pas prendre le risque, ne serait-ce que pour des raisons de faculté intellectuelle, d'avoir une approche macro sur la Vendée militaire, c'est-à-dire les 770 communes de la Vendée militaire, et qu'il était beaucoup plus judicieux de travailler sur un carottage scientifique, c'est-à-dire une commune, une paroisse. Donc au bout d'une heure, on s'est mis d'accord sur la méthodologie première. ne passant pas du tout d'ailleurs par la suite à l'extrapolation. Alors quelle commune, quel village, sur 770 communes, choisir une commune au hasard comme ça? Et là c'est le génie de Jean Meyer qui m'a interrogé sur ma famille, qui s'est rendu compte que j'étais le descendant indirect du Seigneur qui avait fait basculer la chapelle Basse-Mère dans la contre-révolution, et que mes ancêtres étaient titulaires d'une charge très spécifique, c'était le juriste de frontière entre la France et la Bretagne. Ce sont des charges que j'étais moi-même, que j'étais héritier de fermiers généraux locaux, que j'étais héritier des médecins, des notaires, etc. Ça veut dire qu'on avait une documentation familiale extraordinaire. Puis deuxième chose, que tous les gens du pays me connaissaient, mais que réciproquement, puisque j'étais le fils et le petit-fils du médecin, ils me connaissaient et je les connaissais. Ça veut dire que je pouvais aller partout et j'étais toujours accueilli comme le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du médecin, etc. Et mon grand-père était un saint et quand j'arrivais, on m'ouvrait. Puis la troisième chose, fruit d'une double identité, rien ne pouvait m'émouvoir, rien ne pouvait me choquer, etc. Et là, on a commencé à faire un travail sur la chapelle Basse-Mère, commune totalement inconnue, méconnue. Et là, on a découvert une documentation. Et on a découvert aussi, c'est la chance, c'est que la chapelle Basse-Mère, c'est une commune carrefour entre la Bretagne et la France. Entre la Bretagne, la France et la Vendée militaire. Avec une histoire énorme, puisque la chapelle Basse-Mère, j'ai découvert que sous la monarchie bretonne, il y avait un château type Angers. Vous voyez, le château d'Angers, vous aviez le séminaire à Chaux de Basse-Mère, parce que c'était une commune forteresse face à la France. Et puis, aussi, c'est une commune légère. Et là, on a découvert une documentation dans la rue, mais aussi dans les villages, mais aussi, on s'est rendu compte qu'avec la nationalisation des biens du clergé, une documentation à Bruxelles, à Rome, et puis un peu partout à travers le monde, parce que les gens, à la suite des répressions, eh bien, sont partis, ont émigré à travers le monde, et ça m'a permis, je dirais presque, de faire le tour du monde pour collecter la documentation. Et puis grâce à ce travail, on a découvert un certain nombre de choses dont je vous parlais tout à l'heure, des choses totalement inconnues. Et lorsque j'ai soutenu sa thèse en 83, devant Jean Tullard, non, Corbusier, excusez-moi, Chaunu et Meyer, c'était une thèse qui pour moi était terminale. À l'époque, on faisait deux thèses. Hein. C'est le Parti Socialiste qui a supprimé la thèse de doctorat d'État parce que c'était élitiste, et c'est dommage. Et moi, je devais aller aux États-Unis travailler comme vice-directeur d'une chocolaterie. Et donc, je quittais la France. Et c'est Chaunu qui a réussi à me persuader en disant, là vous venez de créer la méthode, les méthodes globales pour être, comment dire, à partir de la chapelle Basse-Mère, que vous pouvez extrapoler à l'ensemble de la Vendée militaire, et vous allez pouvoir vous démontrer qu'il y avait un génocide. Et là j'ai eu cette réflexion, oui, mais en 2 ans. Et j'ai fait cette thèse en 2 ans, sous le, comment dire, la tutelle de Jean Meyer. Donc voilà, la méthodologie, l'histoire personnelle. Alors maintenant, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la Vendée militaire? Parce qu'on croit connaître la Vendée, mais en fait on ne la connaît pas. Tout le monde résume la Vendée, à l'heure actuelle, à Philippe de Villiers, au département de la Vendée. Et je dirais presque que la Vendée est hors, la Vendée militaire est hors de la Vendée, je vais vous le démontrer. Ce n'est qu'une partie de la Vendée qui a été concernée par cette histoire. La Vendée militaire, en fait, c'est la Bretagne, hein, la Loire. La Vendée militaire, c'est une non-province, c'est une non-culture, une non-identité. Il n'y a pas d'histoire commune en Vendée militaire. La Vendée militaire, c'est le carrefour de 3 provinces. Province Bretagne, ici, composé de 5 départements actuels, la loi atlantique. La province du Maine et là le Maine-et-Loire, donc loi atlantique. N'oubliez pas que je répète, la loi est ici, hein. La terre en rouge. Donc la loi atlantique, ça va aussi comme ça. Donc ce n'est que la partie sud de la loi atlantique, le Maine-et-Loire, et puis le Poitou, ici. Le Poitou qui est composé de trois départements actuels, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne, ne sont concernés par l'histoire de la Vendée que le nord de la Vendée et le nord-ouest des Deux-Sèvres et le sud, comment dire, ouest du Maine-et-Loire. La Vendée militaire, je répète, ne connaît pas sous l'ancien régime l'histoire commune. Et la Vendée militaire a été rattachée à la monarchie française, comme toutes les provinces de France, pour des raisons spécifiques, d'alliance, c'est le cas du Maine-et-Loire avec le roi René, de défaite militaire de 1488 entre la France et la Bretagne, et puis d'un traité d'union avec le Poitou. Mais chacune de ces provinces ont gardé leur statut et leurs privilèges tels qu'on les définit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les lois particulières. Pas d'histoire commune, pas de réflexe commun, pas de comportement spécifique au reste de la France. Je suis toujours étonné qu'on pense que sous l'Ancien Régime, la Bretagne et la Vendée étaient plus religieuses que le reste de la France, plus monarchistes, etc. Tout ça, c'est faux. Le problème du sentiment politique en 1789 ne se pose pas dans le cadre du royaume de France. Les Français sont royalistes, monarchistes, comme vous voulez, à 99,99% de la population. Personne ne remet en question, à part quelques vagues égarées qui se surprennent eux-mêmes, personne ne se prend à penser qu'un jour on puisse remettre en question la monarchie. Est-ce que cela veut dire qu'on n'est pas critique vis-à-vis de la monarchie? Oui, bien sûr, on est critique vis-à-vis de la monarchie, pour les mêmes raisons qu'à l'heure actuelle, parce qu'on n'aime pas payer les impôts. Ça, c'est clair. Bon, ça me fait toujours marrer, on pense que les Français se sont soulevés pour les impôts quand on voit la masse d'impôts que nous payons à l'heure actuelle, les charges sociales. Je rappelle toujours ce chiffre effrayant par rapport à la rémunération brute des gens. C'est peut-être trop subtil pour vous, mais quand vous ferez de l'économie, vous comprendrez les subtilités. Par rapport à la rémunération brute des gens, chaque Français paye en moyenne 80% de leurs revenus à l'État, sous forme de charges sociales, d'impôts, etc. C'est clair, ça c'est arrêté. À l'époque, en Bretagne, on paye quoi? 1,5. Donc, Poitou 2, Maine-et-Loire 1,8,2. La taxation fiscale, la pression fiscale est très faible. Mais elle est toujours trop lourde. Et donc, on se dit qu'il y a, après tout, si on peut améliorer, faire baisser l'impôt, pourquoi pas. Mais ce qui préoccupe beaucoup plus cette région, comme le reste d'ailleurs des autres régions de France, c'est la corvée, qui est très lourde. Ah oui, les gens qui entretiennent les voiries à l'heure actuelle, il n'y a pas de cantonnier, etc. Il n'y a pas la DDE. C'est aux paroisses d'entretenir les chemins, les routes, les ruisseaux, les rivières, les fleuves, etc. Avec une spécificité, c'est que tant que l'entretien n'a pas été réalisé, les populations doivent revenir. Et ça, c'est très bien. Puis la troisième chose, c'est le service militaire obligatoire. Chaque jeune Français doit 7 ans de sa vie au roi. Il peut le faire, il peut ne pas le faire. Mais en tout cas, c'est une épée d'Amoclès, et là, on veut arriver. Et en fait, les gens, il n'y a pas de comportement politique spécifique, les gens sont favorables à la révolution 1789, mais au sens britannique du terme, c'est-à-dire une évolution du régime. Et lorsqu'on lit les cahiers de doléances, même s'ils ont été copiés, recopiés, tout ce que vous voulez, ils vont tous dans le même sens, évolution du régime. À personne, il ne viendrait l'idée de remettre en question le roi. D'ailleurs, le roi
que l'on aime, auquel on écrit, rien que dans la petite commune de la chapelle Basse-Mer, j'ai trouvé des centaines de lettres écrites au roi, ne serait-ce que par mon ancêtre, en disant « Monarque chéri », parce qu'on écrit comme ça au roi, « Je t'aime, mais tu nous embêtes. » Et on explique pourquoi. On tutoie le roi. Et le roi, ça peut vous choquer. C'est le père. Le père des peuples de France. J'utilise le vocabulaire de l'époque. Et le roi, chez moi, j'ai des dizaines de lettres de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, on lui signe, il répond. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité religieuse? Et je vais sophistiquer, c'est-à-dire le comportement véritable, humain, ou de pratique religieuse, ici, c'est ce qu'on a voulu faire croire, non pas du tout. L'Ouest, comme toute la France au XVIIIe siècle, est en voie de déchristianisation. La pratique religieuse s'est effondrée. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'au XVIIe siècle, la papauté s'était mise de cela, d'où, entre autres, les missions en profondeur, sous la tutelle de trois prêtres. Là, vous connaissez automatiquement Michel de Noblet pour la Bretagne, Monnoir pour la partie galaise, et ici, un breton, quasiment de Rennes, Grignon de Montfort. Et ce qui est intéressant, c'est de lire les rapports des missions de ces prêtres. Ils sont tous unanimes. Oh, bien sûr, il y a les cérémonies, bien sûr, il y a les attroupements, bien sûr, il y a les confessions. À Concarneau, ça peut durer 30 heures. Mais tout le monde est d'accord, il y a une déchristianisation, il y a un processus naturel de déchristianisation réel. Est-ce que, pour autant, il y a un sentiment anticlérical? Non. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à partir de la fin du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, le clergé et le haut clergé en fonction à l'Ouest est un clergé compétent, très bien formé, et ça va vous choquer ce que je vous dis pour le clergé qui croit en Dieu. C'est sans doute une spécificité de l'Ouest que ce haut clergé qui croit en Dieu et qui va se battre pour cela. Est-ce qu'il y a un comportement économique spécifique? On a voulu faire croire que les guerres de Vendée étaient liées à la paupérisation du peuple. Ça, c'est faux. C'est un énorme mensonge. Nous sommes ici parce qu'on a trouvé, j'ai retrouvé tous les rapports des intendants, etc. Nous sommes sans aucun doute dans une des régions les plus riches de France. Ça peut beaucoup, ça peut vous surprendre. Mais on va raconter pour des raisons qui sont toujours les mêmes. Nantes, Saint-Nazaire, c'est une zone Redon, une zone portuaire, c'est là où se fait l'échange. Forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'arrière-pays produit et la marchandise est écoulée de par le monde, et notamment à Paris. Paris est alimenté en viande par le Maine et Loire et par la Vendée. Et le vin est vendu, le muscadet, le Rouplan sont vendus de par le monde. Même le Poitou, qui est un département pauvre à l'heure actuelle, est un département riche à l'époque. Pour trois raisons. Le bois, n'oubliez pas que tout est en bois à l'époque. La marine royale est en bois, etc. Mais ces bois viennent entre autres de la Gâtine, de la région nantaise. Vous avez, si vous allez à Moléon, il en reste encore des traces, les fameuses tanneries, du Poitou. Et puis les arbres fruitiers qui sont très cotés, notamment en Russie. Donc, production, non pas d'auto-alimentation, mais qui, en raison de l'environnement, avec les grands ports, Bordeaux, toute la côte ici, vous avez de grands ports, Nantes, Redon, Rennes, etc., eh bien, une production à forte valeur ajoutée, avec spécialisation de la population par rapport à la production. Donc, une zone riche et une zone qui entend défendre ses libertés. Alors, pourquoi? Question de fond,
La révolte semble réussir en Vendée et pas ailleurs. Ça, c'est un mensonge. Parce que cette question ne devrait même pas être posée si on a la connaissance de l'insurrection en France. Ce qui me permet de répondre à la question pourquoi le soulèvement ? Ben, le soulèvement, il est très simple. Il y a trois raisons. Une raison humaine. Et je vais parler là de la politique liée à la loi. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez avec la loi, ça vous semble normal. Je définis la loi, c'est l'expression de la souveraineté populaire qui est conçue, votée par une minorité d'entre nous qui a été élue au suffrage universel direct ou indirect. La loi est la grande arme de la révolution en raison de sa nature. Elle est une et indivisible. Et je vais prendre un exemple flagrant. Toujours le même, parce qu'il est chaud. Ça vous paraît normal de parler français. D'autant plus que ça fait partie du préambule de la Constitution de la Ve République. Mais je vous signale qu'en 1789, il n'y a au plus que 40% des Français qui parlent le français. Et si on analyse la situation à l'ouest, la Bretagne ici ne parle pas le français, parle le breton. Ici on ne parle pas le français, on parle une langue romane qui est le gallo, et ici une addition de patois. Roman, c'est. Ça veut dire que lorsque la loi décide que tout le monde devra parler le français, c'est un choc incroyable pour la population. Vous me direz alors, c'est comme si, à l'heure actuelle, le Parlement européen décidait qu'en sortant d'ici, nous devrions parler l'allemand, puisque la langue européenne serait l'allemand. Et si vous ne parlez pas l'allemand, vous devenez hors la loi. Vous imaginez le choc. Deuxième chose, l'impôt. Avec la fin des privilèges, la nuit du 4 août. La nuit du 4 août, on la comprend très mal en France. La nuit du 4 août est une nuit fondamentale. Nous avions, alors à l'époque, avant la nuit du 4 août, nous avions un système pyramidal. Je suis toujours surpris que l'on pense que la clé de voûte du système, c'est le roi. Non, pas du tout. La clé de voûte du système, c'est Dieu. Le roi n'est que le serviteur de Dieu. Et puis après, vous avez la structure classique, c'est-à-dire que nous sommes dans une société religieuse, vous avez donc les religieux, une société pyramidale en trois ordres, le clergé, les gendarmes, ceux qui sont chargés de la reproduction de la société, hein, c'est-à-dire la noblesse, et puis bien entendu, le tiers-état, le tout formant un ensemble harmonieux. Avec la nuit du 4 août, c'est un ordre millénaire. Cet ordre a été fondé, à mon avis, par Clovis, mais reprenons l'idée à laquelle que c'est Charlemagne qui a créé cet ordre. C'est un ordre millénaire. C'est un ordre commun à tout le monde chrétien. La nuit du 4 août, c'est la suppression de cet ordre pour la société horizontale, c'est-à-dire que le roi, comme le boucher, comme le valet, comme le paysan, comme le châtier, etc., ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs par rapport à la nation dans le cadre de cette société horizontale. Et d'ailleurs, de même que le citoyen Dieu. Pour voir les débats qu'il y a eu sur la citoyenneté de Dieu, ça peut vous sembler choquant, cependant. Dieu, on le considère comme un citoyen comme un autre. Et le vocabulaire, tout ça va changer, etc. C'est la fin du système d'ordre, mais c'est aussi l'abolition des privilèges des provinces. Et aussi, bien entendu, l'abolition des privilèges des corporations. Ça veut dire que du jour au lendemain, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de province, il n'y a plus de privilèges liés aux provinces,
Et il n'y a plus, bien entendu, de corporation. Et n'oubliez pas, c'est la loi Le Chapelier. Et la loi Le Chapelier ne sera remise en question qu'en 1901. Et alors ?
Eh bien, ça veut dire que les statuts fiscaux de la Bretagne, du Poitou, du Maine-et-Loire, sont remis en question. C'est un exemple bien précis. Et qu'ils vont s'aligner sur le statut national. Ça veut dire qu'en gros, les Bretons vont voir leur fiscalité doublée. Vous imaginez la déception ? Etc, etc.
Et puis, une chose qui semble tout à fait banale, le serment civique de la part du clergé. Je jure fidélité à l'État. C'est comme si à la rigueur vous disiez, je jure fidélité à Jacques Chirac et le Premier ministre ou à Madame Royale demain. Vous imaginez, nous ne sommes qu'à cette génération. Enfin, pourquoi voulez-vous qu'ils pensent autrement que vous ? Ben, les gens disent non. Nous refusons le serment de fidélité. S'il refuse le serment de fidélité, il devient hors la loi. Ça veut dire qu'il doit être puni. Nous sommes en 1790. Comment punir les gens ? Ben, on les exile, on les tue, on les emprisonne. 80% du clergé qui est bien formé est passible des peines légales. Ben, qu'est-ce que font les prêtres ? Ils vont aller se réfugier au sein de leur famille, chercher la paix et la sécurité. Nous sommes dans le cadre d'une histoire lente, très lente. Alors que nous vivons dans une histoire fugitive, très rapide. Tout est lent. Et lorsque les gens voient arriver, depuis le Concile de Trente, un prêtre natif d'une paroisse n'est jamais nommé dans sa paroisse natale. Lorsque une famille voit arriver son frère, son oncle, son cousin, etc., qui dit, ben, je viens chercher la paix et la sécurité chez vous. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis lui explique, je suis devenu hors la loi. Ah bon, pourquoi tu es devenu hors la loi ? Il lui dit, ben, parce que j'ai refusé le serment constitutionnel. Il lui explique, 3 ans. Conséquence. Lorsque la France, et c'est la France qui déclare la guerre, ça c'est sans doute la deuxième spécificité de la Révolution française, qu'on ne retrouve pas dans la Révolution anglo-saxonne. Il s'agit, pour la Révolution française, d'être une révolution mondialiste. Mondialiste. Et vous avez ce débat incroyable qu'on retrouve chez Rosa Luxembourg ou Lénine. Comment, par la Révolution, soit on fait la guerre à l'extérieur, et on l'impose par la victoire à l'intérieur, soit on fait la guerre à l'intérieur, et on l'impose, la Révolution à l'intérieur, et on l'impose à l'extérieur. Le choix qui a été fait, c'est de faire la guerre à l'extérieur. Et la France, je dis bien, la France va déclarer la guerre au monde, à l'Europe. Et bien entendu, les pays agressés vont se défendre. Et non seulement ils vont se défendre, mais ils vont envahir le territoire national. Conséquence, et on arrive à l'affaire de la Rouérie, conséquence, les révolutionnaires français risquent de se trouver pris en carcan entre l'Est et l'Ouest insurgés. Alors pourquoi 60% des Français disent non au recrutement ? Ben pour une raison tout à fait simple. C'est qu'à l'époque, un militaire est un gendarme, c'est-à-dire qu'il doit défendre l'ordre intérieur, mais aussi la frontière. Donc, prendre, accepter d'aller sous le drapeau, c'est se battre pour défendre le système. Or, on ne l'aime pas. Mais ça veut dire aussi que l'on va pourchasser, en tant que gendarme, son frère, son cousin, etc. Moi, dis non. Et c'est pour ça que 60% des Français disent non. Ça veut dire que la révolte vendéenne n'est pas du tout une révolte spécifique. Nous l'avons dans Berry, nous l'avons en Bretagne, nous l'avons à Lyon, à Marseille, Toulon, etc. 60% de la population en France s'insurge. Alors, pourquoi cela a-t-il marché en Vendée militaire et pas ailleurs ? Pour une raison tout à fait simple que je vais vous expliquer. C'est qu'en Vendée militaire, la Vendée militaire c'est 10 000 km², c'est 770 paroisses ou communes, c'est 815 000 habitants.
la population française en 1789 est évaluée entre 26 et 28 millions. Je ne sais pas quel est le chiffre qui est retenu à l'heure actuelle.
28.
Ça veut dire une population très dense, très concentrée. Mais avec une spécificité qu'aucun historien n'a eu. Je vous soulignais à chaque fois que j'apportais quelque chose. Vous n'avez aucune grande ville à l'intérieur de cet espace. Toutes les grandes villes sont les grandes villes périphériques. Nantes, Angers, Niort, Sainte-Deleuze. Il n'y a aucune grande ville. Cholet, toute une petite bourgade. Aucune grande ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de répression. Si bien que lorsque les gens se soulèvent, ouais, ils rencontrent qui? Le prêtre jureur, qu'on appelle Tonton, ou Truton, et puis le fonctionnaire, membre du parti, qui est le maire. N'oubliez jamais que le maire est nommé par l'État central. Il faudra attendre la réforme de 1884 pour qu'il soit élu par le conseil municipal. Bien. Il est officier de l'état civil, il est fonctionnaire. Ça veut dire qu'il est exempté de toute obligation. Bien. Ça veut dire que les gens, ben, ils n'ont aucune raison de défendre l'ordre. Ils s'insurgent, ils rencontrent aucune résistance, et puis ils vont aider les copains, et ça s'est passé comme ça. Donc, moi je prends les gars de la chapelle de Basse-Mer, ils sont allés à Landemont, qui est à 10 km, ils n'y avaient jamais été avant. Puis ils ont fait le coup de feu, ils ont fait fuir le curé Truton et le merde. Hein. Tu es d'où toi? Ben moi je suis dans le monde, toi t'es d'où? Ben moi je suis dans Sny. C'est où en Sny? Ben, je ne sais pas trop. Puis petit à petit, les choses se sont mises en place. Et puis ce territoire, sans en avoir conscience, s'est constitué. En Bretagne, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que vous avez un maillage de moyenne cité. Et puis la Bretagne, la monarchie française en est toujours, a toujours été sur la défensive. Elle a mis partout ici des casernes. Donc dès que les populations rurales s'insurgent, allez, on tombe dessus. N'oubliez pas l'affaire qui a été lourde de conséquences, l'affaire de Bonnet Rouge, qui a terrorisé la population bretonne. Ici, vous savez, on est dans le pays du Bellet. Tout est calme, tout est tranquille, c'est le tourangeau de l'époque. Conséquence, on s'assure, on fuit tout le monde, on a un espace, puis on se dit, bon, il nous faut des chefs. Ben, les chefs, il faut les trouver. Et on se dit, ben, la meilleure solution, on va les élire. Puis on élit les chefs. Aucun chef de la première insurrection n'est là. Pourquoi? Parce qu'on s'en méfie. Tout simplement. Tous les chefs de la Vendée militaire neuve, sans aucune exception, de surcroît, ont refusé de se mettre à la tête de l'insurrection vendéenne. Que ce soit Charles, Bonchamp, etc., tous unanimement ont refusé parce que ce sont des militaires de carrière et ils sont convaincus qu'un peuple de paysans ne pourra pas faire face à l'armée. Et l'affaire Charette est une affaire tout à fait banale. Ces paysans se révoltent, se disent il nous faut un chef, ils élisent le chef de paroisse, puis il nous faut un chef militaire, ils vont frapper au château de Fonteclose, à côté de la Garnache. Et voilà, mais c'est notre maître. Ah, il n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? On l'a vu hier. Oui, mais il est parti. Non, c'est pas vrai. Parce que moi, mon frère, il est valet chez lui, et tout à l'heure, il m'a dit qu'il était là. Et les gens entrent dans le château et le cherchent. Ils vont jusque dans sa chambre et là, le lit est chaud. C'est « Ah, il est ici !» Ils entendent un petit grincement, Charette est sous le lit, ils tirent le lit, ils le prennent en disant « Hé, monsieur notre maître, soit tu te mets à la tête, soit on te casse la tête. » Et ce Charette est devenu grand général uniquement grâce à cette histoire. Bonchamp, c'est la même chose, etc. Bien. Donc, une fois qu'on s'est insurgé, ça y est, on se dit, l'ennemi, c'est quoi? Ben, ce qui est vrai hier,
est vrai aujourd'hui et vrai demain, c'est Paris. Bon, Paris est ici. Hein.
La Bretagne est là, du moins les 4 demi-départements. Bon.
Et puis la Loire. On se dit, ben, l'ennemi c'est Paris. Ensemble, allons vers Paris. Donc on va former une grande armée. Et puis on va longer la Loire. Puis on arrive à Angers, on fera la porte de la ville, on dit où c'est nous, on est 10 000, on fait le siège, vous nous donnez les clés.
Les Angevins sont les Angevins.
Quelle est la moins mauvaise des solutions? Je pense que c'est de vous donner les clés. Et la ville d'Angers s'ouvre. Et après, on se dit après Angers,
c'est Saumur. À Saumur,
on frappe. C'est une citadelle. Et on tire, se défend. Les Vendéens emportent Saumur. Mais là, ils comprennent que si ils s'éloignent de trop de leur territoire, ils sont morts. Donc il faut absolument insurger tout l'Ouest. Donc, premièrement, on va se donner un chef, et surtout pas un homme. Ça va être un paysan, Catalino. Et deuxièmement, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est la traversée de la Loire pour permettre à l'Ouest de s'insurger.
Traverser la Loire, c'est facile de nos jours. Vous avez des ponts partout.
À l'époque, la Loire est un fleuve infranchissable. Infranchissable parce que c'est un fleuve à lit plat, très large, marécageux de surcroît. Les seuls ponts que vous ayez, sont à Angers et à Nantes.
Et on se dit, attaque à Nantes, Nantes tombe, et puis après la Bretagne tombera. D'autant plus qu'il y avait tout le complot de la Houairie, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail global.
Conséquence, on attaque Nantes. Nantes allait tomber. Nantes est cernée. Catalino, un stratège, avait demandé que la route de Vannes soit libre pour que le maire de Nantes, Baco de la Chapelle, puisse s'enfuir. Le prince de Palmont a barré ses troupes. C'est bien que lorsque le maire se heurte avec sa caisse, il se heurte à la soldatesque, et là, il va défendre sa ville, et le hasard a fait qu'il y a une balle qui va blesser mortellement Catalino, et Catalino va mourir le 14 juillet.